Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
À partir de maintenant, c'est ainsi tous les jours, du lundi au vendredi, vous vous exprimez sur toute l'actualité, tous les sujets qui vous interpellent, vous composez le 3210, vous nous rejoignez, vous avez à disposition aussi pour vous exprimer vos messages sur les réseaux sociaux, le compte Twitter RTL midi et la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Premier sujet, ce sont les intempéries et leurs conséquences et ces images impressionnantes d'un RER B qui est sorti de la voie ce matin en raison d'un glissement de terrain, lequel a été dû évidemment aux fortes pluies de cette nuit sur Paris et sur l'Île-de-France. Il y a 7 blessés légers, image assez impressionnante de 3 wagons notamment qui sont un peu suspendus dans l'air, comme nous disait notre invité tout à l'heure. Je voudrais qu'on rejoigne Dominique, qui est auditeur des Yvelines et qui a vécu ça de tout près. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez dans le RER, c'est
Bonjour.
Ça
Oui, ce matin à 4h58 pour aller au boulot. Quoi.
Alors racontez-nous.
Donc on est monté. Donc on parle de 7 personnes qui ont été blessées légers, mais il y avait 4 autres personnes qui étaient à l'arrière, dont on ne parle pas. Le RER a démarré. Au bout de, je veux dire, 3 ou 400 mètres, il y a un grand coup de frein. On a tous été un peu bousculés. On est tombé dans le noir.
Oui.
Et puis il y a le chauffeur qui est arrivé avec sa chasuble en faisant des grands signes. Il a dit surtout ne bougez pas, tout est sous contrôle. Il nous a évacués à l'arrière du RER. Et donc, il nous a demandé de rester à l'arrière du RER. On a dit qu'on ne savait pas s'il y avait des personnes devant, parce qu'on sur le quai, on ne voit pas toujours tout le monde quand il fait noir comme ça de bon matin. Et ensuite, ce monsieur est également revenu vers nous. Il était très sympathique et il nous a fait descendre sur les voies. Et on a marché le long des chemins, des voies de chemin de fer, pardon, entre Courcelles et Saint-Rémy pour rejoindre la gare de Saint-Rémy, quoi. Voilà. À quatre, l'un derrière l'autre. Voilà.
Vous l'avez senti, ressenti, Dominique, le moment où les wagons sont sortis des voies, justement?
Non. On a senti un grand coup de frein à nous, un grand coup de frein. Et comme si on était bousculé, quoi. Et après c'est tout, le noir complet. Et donc voilà, c'est tout. C'est ensuite en descendant des wagons, on a vu que tout était couché sur le flanc, quoi.
Il y avait combien de personnes à peu près à ce moment-là dans cette rame?
Dans les deux derniers wagons, on était 4.
Oui, d'accord. Il y avait encore.
On était 4. Après, les personnes de la préfecture, je crois qu'elles parlent de 7 personnes, mais si elles étaient dans les wagons devant, on ne les a pas vues.
Avec un peu de recul, Dominique, ça a eu lieu il y a 7-8 heures maintenant. Vous êtes dans quel état? Est-ce que vous êtes un peu choqué?
Voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai appelé mon employeur, il m'a dit c'est bon, reste chez toi. Donc c'est le côté, sympathique du patron qui comprend.
Franchement,
au début, ça m'a rien fait, mais en revenant. Je me suis dit, ah oui, quand même, j'aurais pu être devant, quoi. Ça m'a fait bizarre, et voilà.
Quand vous êtes sorti, Dominique, et que vous avez marché le long des voies, vous avez vu à quel point le ballast était parti?
Non, on était complètement à l'arrière.
Ah oui, d'accord.
On était dans les deux dernières voitures, et je ne sais pas combien ça... Il y a au moins 10 ou 13 rames. Donc on a vu de loin simplement que les wagons étaient couchés sur le côté, et on a vu qu'ils étaient complètement sur le flanc. Donc on a dit, ouais, ça va être impressionnant. On espère qu'il n'y a personne dedans.
Ouais.
Et voilà, donc on est descendu. D'ailleurs, je remercie les personnes de la RATP qui sont tout de suite venues à notre charge, ils nous ont aidés à descendre, et ça s'est super bien passé. Voilà.
Les secours sont arrivés.
Mais je pensais que c'est important de dire qu'il n'y avait pas que cette personne qui était blessée, il y a peut-être 4 autres personnes derrière. Bon, moi, ça va, j'ai rien. Mais peut-être que psychologiquement, on va peut-être y penser les prochaines fois.
Évidemment. Merci Dominique de ce témoignage précieux, en tous les cas, de ce vécu ce matin, parce que vous étiez justement dans ce RER concerné. Merci de votre appel et bon courage pour les prochaines heures, prochains jours. Il va falloir se remettre de tout ça. 3210, vos témoignages sur toute l'actualité. Vous êtes les bienvenus. 3210, à tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
C'est votre émission, vous le savez. Vous avez choisi au 3210 de revenir sur l'épopée des migrants de l'Aquarius qui devraient finalement partir vers Valence en Espagne puisque l'Italie ne veut pas les accueillir. La France devait-elle les accueillir? C'est la question du jour sur RTL.fr et le débat fait rage sur Facebook. Laurent Tessier.
Christelle, la France n'avait pas les accueillir, soutient Serge. Nous aurions lancé par cet acte un appel à tous les potentiels arrivants. Pour Thierry, nous avons suffisamment de personnes qui galèrent en France, pas besoin de recevoir toute la misère du monde. Mais comment peut-on laisser autant d'humains en détresse sans rien faire, critique Anne-Marie. Eh bien oui, rebondit Alban. comprends quand je vois certains commentaires. Je me dis que beaucoup n'ont pas de cœur. Vous avez eu la chance d'être né au bon endroit. Réfléchissez une seconde, Alban, demande Yves. Accueillir ce navire serait une erreur. Nous aurions une porte d'entrée incontrôlable. Il ne s'agit pas de stigmatiser tous ces migrants, mais de bien comprendre que notre pays ne peut faire face à un tel afflux. Aujourd'hui, c'est l'Aquarius, mais demain, qu'est-ce qui viendra à nous? Et pour Sophie, il faut penser en premier aux conditions d'accueil. Si on les laisse tomber au bout de quelques mois, leur ouvrir nos portes n'a alors aucun intérêt.
Merci Laurent. Évidemment, il y a débat et des avis très très opposés sur nos réseaux sociaux et la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On vous écoute avec plaisir au 3210. Je voudrais qu'on donne la parole d'abord à Philippe, qui est un chef d'entreprise dans le Cher et qui est en ligne avec nous et qu'on accueille avec plaisir. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci de bien vouloir m'entendre. Alors j'entends bien justement les réactions diverses et variées qui vont parfois jusqu'aux extrêmes. On peut réagir d'une façon un peu plus, enfin avec un peu plus de recul. Bon, moi en tant que Français, je réagis avec surprise parce que quelque part, la France est signataire des conventions de Genève. Et on est dans un pays quand même qui rappelle et qui donne des leçons même parfois. Donc on se doit d'accueillir les réfugiés politiques. Mais après, il faut distinguer ceux qui sont réellement en danger de ceux qui ne le sont pas. Ce qu'on n'avait pas prévu dans ces conventions, c'est le nombre. Mmh. Et puis on peut être surpris aussi de voir autant de jeunes hommes arriver, alors qu'on pourrait penser qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils pourraient être eux-mêmes combattants pour restaurer la liberté dans leur pays. Si on avait fait ça en 39-40 ou aux guerres précédentes, on aurait peut-être des surprises dans la vie de tous les jours aujourd'hui. On ne pourrait peut-être pas en parler d'ailleurs de cette chose-là. Mmh. On pourrait croire, la petite perche lancée par le ministre de l'Intérieur, on pourrait croire au benchmarking, effectivement. Deuxième réaction, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, c'est intolérable de laisser des gens périr ou dépérir. Je l'ai entendu tout à l'heure dans les réactions lues par Laurent. Et on peut... Peut-être que certains vont penser que les Corses réagissent en surfant sur la vague, mais la réaction corse me paraît saine parce que c'est un pays, c'est une île et c'est une partie de notre pays qui a connu les naufrages, les drames maritimes. Et ouvrir un port, c'est même à l'ennemi, on le faisait, quoi. Enfin, c'est historique, donc c'est intolérable de laisser ces gens voguer, voire couler, quoi. En revanche, comme le rappelait un de vos auditeurs, dont je fais partie, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'équilibre n'est pas facile à trouver et on a... là, encore une fois, c'est entre les mains du politique.
Mmh. Et mais plus, c'est bien, plus, finalement... vous résumez extrêmement bien la complexité de ce dossier.
Ce qui est à la fois... plus complexe que ça.
Mais oui.
Encore plus complexe que ça, parce que le troisième volet de la réaction, là, je vais réagir en tant que chrétien. Mmh. On se doit à l'accueil, nous sommes un pays chrétien. Qui a été catholique, qui donc a dans quelque part dans sa génétique et puis dans sa morale la capacité à vouloir ouvrir les bras, accueillir. Dans l'esprit des Français, on a réussi à inoculer quand même une certaine stigmatisation qui n'est pas dénuée de sens. Hein. Pourquoi ? Parce que effectivement, chez beaucoup de gens, dans notre bon vieux pays français de, comme disait le président Hollande, de souche chrétienne, il y a un effet de saturation. Et puis on observe aussi, alors ceux qui font des très gros raccourcis observent que le malheur, les attentats arrivent par des gens de confession musulmane, islamiste, certes, radicaux, certes, mais voilà quoi. D'où la difficulté à pouvoir intégrer tout ça. Et on voit bien que le gouvernement, l'exécutif, est bien embêté avec cette affaire.
Très silencieux depuis 24 heures.
Ah oui, entre son devoir régalien, ses devoirs régaliens et l'opinion publique, là pour une fois, il va falloir trancher. Mmh. Alors le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils étaient au courant quand même que le bateau commençait à partir un petit peu partout, il a lancé quelque chose la semaine dernière au moment où on voyait que ça allait peut-être poindre jusque sur nos côtes. Et il a lancé, oui, ils font du benchmarking. Voilà. Bon, ils ont vu les réactions. Une grosse majorité de Français refusent l'accueil. Mmh. On peut les comprendre. Parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de misère chez nous. Et pourquoi accueillir des gens qui sont dans l'embarras, certes, mais qui peuvent apporter, pour quelques-uns d'entre eux, il n'y a pas 600 terroristes, hein, mais quelques-uns d'entre eux peut-être des désordres sur le moment ou à venir, alors qu'on pourrait déjà commencer à faire le nettoyage devant notre porte et en intérieur. Donc là, c'est entre les mains du politique, et c'est très délicat de trancher, de dire « oui, je dois accueillir ». On a plein de raisons d'accueillir, mais on a tout autant de raisons de refuser et de rejeter. Donc voilà quoi. Après, en pleine conscience, c'est quand même très délicat.
Dossier très complexe, Philippe. Vous pouvez rester avec nous, j'aimerais qu'on écoute une autre génération qui va s'exprimer sur cette affaire-là. C'est Benoît, qui est étudiant, qui a 23 ans dans les Yvelines et qui nous rejoint. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, qu'en dites-vous ?
Alors, déjà, première question, par rapport, donc, ce sont des Libyens, donc, dans le bateau, c'était pour savoir, déjà, y a-t-il urgence ? Y a-t-il urgence ? Sont-ils en danger ? Ce serait déjà une première raison de les accueillir ou non. S'ils sont en danger, évidemment, ne pouvons pas les laisser périr, évidemment qu'il faut les accueillir. Mmh. Et après, par contre, je pense que la question ne doit pas s'arrêter, en fait, sur oui, faut-il les accueillir, faut-il... Enfin, si on se pose la question à chaque fois qu'il y a un bateau, on n'a pas fini d'y répondre, et je pense qu'il faut répondre, en fait, à cette crise des migrants. Pourquoi est-ce que c'est des migrants qui viennent actuellement sur notre sol? Et je pense que la réponse, on l'a tout simplement avec la Libye, avec ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en torpillant la Libye, en pillant leur richesse, alors que ce soit la Libye ou tout autre pays, mais en leur pillant leur carburant, leur gaz ou quoi que ce soit. Et je pense que la solution, ce serait déjà de leur rendre ce qui leur appartient, et ensuite de les aider à reconstruire ce que nous, Français, Nicolas Sarkozy a détruit, pour qu'on puisse... les aider chez eux et qu'ils puissent se développer et pourquoi pas devenir une grande puissance comme la France.
Je vais faire juste une parenthèse, Benoît. Le bateau venait de Libye, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient Libyens, ceux qui étaient à bord. Il y a beaucoup de Soudanais, vous savez.
Ils passent par la Libye
parce que c'est le point le plus proche pour arriver en Europe, le plus simple pour eux.
Oui, voilà. Exactement. Mais ça ne change pas le fond du problème qui reste que, en fait, ce sont des pays extrêmement pauvres et que l'on empêche de se développer déjà en leur pillant leur richesse. Mm-hmm. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, tout simplement en venant faire la guerre dans des pays. Alors là, je prends le cas de la Libye parce que, bon, quand il y avait Kadhafi, ils avaient une certaine politique familiale, ils avaient la nourriture était 5 fois moins chère, le pétrole pareil. Donc voilà, on a une part de responsabilité et je pense que pour résoudre ces problèmes et plus avoir tout ça, c'est les aider. On se doit de les aider et les aider d'abord, c'est chez eux et pas quand ils sont... et pas les laisser périr dans le désespoir.
Il faut prendre le problème en amont.
Pour arriver chez nous.
Absolument. Sentiment de Benoît, qui est un auditeur Facebook, qui nous a rejoint via le réseau social, évidemment, et vous êtes très nombreux à le faire. On vous remercie. Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole. Le 3210 pour commenter l'actualité. On prolonge tout ça juste après ça. Il est 13h22. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
On s'intéresse tous ensemble avec vous, avec vos avis, vos sentiments et vos arguments au sort des migrants de l'Aquarius. On se pose la question, puisque ce navire va donc rejoindre finalement l'Espagne et le tout escorté par des navires italiens. Est-ce que la France devait accueillir ces migrants de l'Aquarius? On a écouté Philippe et Benoît, deux sentiments, et Emmanuel a des choses à nous dire et nous rejoint en direct. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes en Italie, c'est ça?
Exactement, je suis de Milan. Hein, Milan, comme très jolie ville, est un peu la capitale économique de l'Italie, hein, la bourse et tout ça. Donc ici, est un peu une île en Italie du fait qu'il y a plus d'opportunités de travail. Et donc, bien sûr, beaucoup d'immigrants qui sont ici à Milan. Et de plus, Milan est une ville à 60 km de la Suisse, pas loin de l'Autriche et pas loin de la France aussi. Non La situation que je voulais dire, que malheureusement, il n'y a rien à rigoler dessus, mais enfin, ça me fait légèrement rire d'entendre vos auditeurs qui étaient avant moi, et qui tombent des nues, mais simplement ce ne sont pas eux. Je vous offens aussi les autorités de tous les pays européens, la Commission européenne en elle-même, même Juncker qui n'a pas dit un mot, M. Macron n'a pas dit un mot, Merkel n'a pas dit un mot. Comme si c'était la première fois que ça arrivait, ces choses-là, et c'est fort dommage, parce qu'on dit... L'Italie ne les prend pas et les Italiens ne sont pas humains. Non, c'est pas ça. Ça fait déjà depuis 5 ans, 6 ans bientôt que ça arrive.
Oui. L'Italie a accueilli 700 000 migrants.
700 000. Et l'année dernière, simplement 150 000 par elle-même. Je ne sais pas si quelqu'un avait vu bien la situation de la carte géographique de l'Europe et du bassin méditerranéen, où le traité de Dublin dit clairement que les immigrants doivent être apportés. Dans le pays le plus
dans le pays dans lequel ils sont arrivés.
Oui, mais non. Ils doivent être apportés dans le pays le plus proche.
Oui.
Si vous regardez bien la carte de Méditerranée, Malte est au sud de la Sicile. Donc Malte Et Malte n'est pas étranger à ce phénomène. C'est pas la première fois qu'ils font ce coup-là. Hein. Nous, en Italie, parce que votre auditeur avant, il a dit, ben, si on commence à les prendre, on n'en finit plus. Mes chers collègues, ça fait déjà plus de 6 ans que nous, on n'en finit plus de les prendre. Et on n'y arrive plus. Vraiment, simplement, on n'y arrive plus. C'est pas que l'Italie n'est pas des humains, parce que j'entendais ce matin aussi votre l'ex-ministre Kieng, qui tirait gratuitement sur Salvini. Mais Salvini, en fin de compte, tout le monde regarde midi à sa porte, et c'est normal qu'il fasse quelque chose pour arrêter les migrants. C'est dommage de dire cette chose-là, mais c'est comme ça, malheureusement. Personne ne veut prendre en considération cette situation, et la Commission européenne se refuse à aider. Et ces gens-là, ils arrivent en Italie. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'aller à Ventimiglia, à la frontière, à Chiasso, avec la frontière suisse, Bordinecchia, toutes ces choses-là. C'est un cumul de gens qui attendent, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas la possibilité de travailler, qui même des fois ne veulent pas travailler, et malheureusement qui rentrent dans le problème de la mafia dans le sud de l'Italie, avec le problème des récupérations des tomates et des choses comme ça. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. C'est simplement que être plus humain, c'est que 28 pays en communauté européenne, je pense qu'il y a, et on est tout seul à les gérer.
Voilà, il faudrait partager justement le dossier, c'est ce que vous nous dites. Et intéressant ce regard aussi depuis l'Italie, hein. Signé Emmanuel en direct dans RTL Midi, les auditeurs ont la parole. Merci à vous. Très belle journée. Merci. 32-10, vous prolongez tout ça, vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez sur toute l'actualité. On va parler football et on va s'offrir une séquence nostalgie dans un instant. Revenir à ce fameux 12 juillet 98. Souvenir, à tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Que faisiez-vous le 12 juillet 98? Tiens, je vous pose la question, Stéphane. Racontez-nous.
J'étais
le 12 juillet 80, ça vous parle?
À Dublin, en Irlande, pour le Tour de France.
98. Ah oui, donc vous avez quand même suivi la finale.
Bien sûr, dans un pub, vous imaginez bien, avec tout ce qu'il fallait, mais d'un peu loin. On a envie de savoir justement où vous étiez, si vous vous souvenez en particulier de ce soir-là, soir de fête, cette victoire face au Brésil, 3-0, de l'épopée, de la folie autour de cet événement qui avait lieu sur notre sol, tout simplement parce que ce soir, à la Défense, à Nanterre, pour être précis, à la U Arena, il y a un match vintage de nos Bleus 98 avec Lizarazu, avec Zidane et avec tous les autres, contre une sélection FIFA 98. Justement, vos souvenirs, d'abord, avant de vous écouter, parce que vous êtes nombreux à vous souvenir au 32-10, on va lire vos messages sur les réseaux sociaux. Laurent, sur la page Facebook.
J'ai adoré cette équipe, se rappelle Estelle. Des joueurs humbles qui n'ont pas pris le melon pour Steph. Martine se souvient de ce qu'elle faisait ce 12 juillet 1998. J'étais devant un grand écran dans les rues pour fêter la victoire avec les amis. Dominique a ouvert ce soir-là une bonne bouteille de champagne. Nous avons vibré devant les matchs des Bleus. La finale a été grandiose, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai été prise par le jeu. Claire était elle avec ses collègues de travail, nous avons regardé le match tous colorés de bleu, blanc, rouge et au coup de sifflet final nous sommes tous partis sur les Champs-Élysées. La fête a duré jusqu'à 5h du matin. Quelle équipe, c'est vrai, se souvient Nadine. Faisons confiance à celle de 2018. Je vous rappelle qu'à l'époque personne ne pariait sur la France. Merci monsieur Jacquet. Après, tout le monde n'a pas de souvenir de ce 12 juillet 1998 comme Kevin. Eh bien oui, j'avais un an ce jour-là. Compliqué, hein.
Laurent, vous aviez quel âge?
J'avais 11 ans et j'étais au camping avec la famille. Et je n'arrivais pas à m'asseoir, c'était terrible.
Et Christelle était en matinale sur la première radio.
Et moi, oui, je faisais le petit matin ici, mais j'étais allée voir le match dans un bar à Montmartre et c'était extraordinaire l'ambiance.
Henri nous rejoint au 32-10 pour cette séquence nostalgique. Bonjour Henri.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous souvenez de tout ça?
Bah, c'est bien puisque... D'abord, c'est un peu difficile de parler de tout ça après le sujet que vous avez...
Oui, bien sûr.
Mais enfin, bon. Je m'en souviens très bien puisque je mariais mon fils le 11 et dans le faire-part, j'avais annoncé, j'avais convié la famille et des amis à une grande soirée le lendemain pour sur grand écran la grande finale et j'avais mis sur le faire-part France-Brésil.
Génial. Vous aviez déjà anticipé
visionnaire.
Ça, vous. Visionnaire.
Exactement. Alors, certains esprits chagrins m'ont reproché de ne pas donner le score, mais enfin, ça donne pas mal.
Donc, vous l'avez vu.
Voilà,
l'avez
et on en parle encore dans les chaumières. Pourtant, c'était dans un pays du rugby, puis c'était Bayern de Bigorre, et je peux vous dire que ça a été. Je pense que les habitants s'en souviennent.
C'est un week-end dingue. Ça.
On a déboulé ensuite dans la ville, et c'était la grande joie, la grande fête.
Écran géant, Henri?
Voilà. Oui, oui, on avait. Bah, c'était l'époque où on trouvait tant d'écran géant. C'était difficile à trouver, mais enfin, on en trouvait. Et là, c'était évidemment imprévu, imprévisible, mais c'était extraordinaire. Quoi.
Que de souvenirs, en plus, pour votre fils, souvenirs supplémentaires.
Hein. La finale était annoncée hein, dans son prépa. Ouais.
Ça, c'est beau. Restez là, Henri, s'il vous plaît, puisqu'on parle de mariage. Sylvaine nous rejoint depuis Lyon. Bonjour, Sylvaine, soyez la bienvenue.
Oh. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, le mariage, c'était la veille, c'est ça?
C'est ça, on s'est mariés le 11 juillet 1998.
Comme le fils
d'Henri. On s'est mariés à La Rochelle. Mmh. Et donc, tous nos amis étaient venus de Lyon pour fêter notre mariage. Et donc, ils avaient prévu quelques jours de rester avec nous. Et le lendemain, comme il y avait la finale, on a mis notre télé sous le barnum. Il y avait encore des fêtes, il y avait encore du champagne. Et on a refait la fête après le mariage. C'était un moment extraordinaire.
Mmh. C'était la fête après la fête ?
C'est ça. C'était le prolongement de la fête, en fait.
C'est génial. Vous avez joué les prolongations, c'est ça ?
Exactement.
Ça fait des beaux souvenirs, ça, en plus du mariage, une victoire en Coupe du Monde. Vous avez mis le foot à la base,
oui,
ou pas du tout ?
Oui, à chaque fois. Oui, si, ah. Moi j'aime quand même bien le foot. Mon mari aussi, enfin voilà. Mmh.
Mais j'imagine que même ceux qui n'étaient pas fans, ils étaient mobilisés.
Ah oui, tout le monde était là, toutes les générations, les enfants, les grands-parents, enfin voilà, on a tous regardé le foot, on a tous crié ensemble, voilà. Et le dernier but de petit, voilà, c'était la folie.
C'était l'hystérie totale. Je me retourne vers Henri à Boulogne-Billancourt. Chacun se souvient de ce soir-là, de ce qu'il faisait, qu'on aime le ballon rond ou pas, ça a marqué un peu l'histoire, de façon générale.
Oui, oui. C'est sûr. Enfin, je me souviens pas très bien parce qu'on était quand même, vous voyez ce que je veux dire. En plus, il faisait un temps extraordinaire, très chaud, donc vous voyez, ça aggravait notre condition. Et, mais je dois dire que j'ai pas revu depuis, mais j'ose pas le dire à votre antenne, j'ai pas revu beaucoup de finales ensuite. je suis plus rugbyman, enfin voilà.
Oui, mais là, enfin,
c'est vrai que c'était un moment quand même extraordinaire. Surtout de l'avoir prévu, quoi. C'est ça qui est marrant.
Ouais. Ça c'est beau. C'était un bon pronostic sur le faire-part du mariage de votre fils. Voilà. Hein. On a Kinou aussi dans le Loiret à Orléans qui est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, racontez-nous.
Vous étiez outre-Manche comme moi, vous, hein, c'est ça?
Ah oui, moi j'aime pas le foot, mais j'étais outre-Manche, j'étais en anglais intensif, j'étais chez une hôtesse qui adorait le foot. Donc on regardait tous les matchs, et puis ben, j'étais prise dans le jeu. Et puis dans mon collège international, à chaque fois qu'on gagnait un match, disons qu'on battait des gens avec qui j'étais. Alors à chaque fois, j'étais congratulée comme il n'est pas possible. Et puis le soir de la finale, avec quelques Français, on était dans un pub.
Ouais.
Et puis au premier but, on fait « Ouais !» Et on a vu les Antilles qui se sont retournés vers nous. On a dit « Bon, on se calme » parce que c'était pour les Brésiliens. Et on s'est calmé. Donc après, les peuples ferment de bonne heure. On est allé dans la rue, on dit « Mais non, on ne va pas finir comme ça ». Mais nous, on était en dehors de la ville. Et je suis allée cogner à la porte de la chambre de mon hôtesse en lui demandant si elle pouvait me vendre des bières. Et on a fini sur le trottoir à parler du match comme ça, avec nos bières. Je lui ai dit, bon, on s'éloigne un peu de notre pavillon. Et puis voilà, on a discuté comme ça. Et j'avoue que, bon, j'étais prise dans le jeu. Et après 2000, j'ai regardé aussi. Mais depuis, bon, je m'éloigne un peu du foot. Et si j'étais restée en France, je n'aurais jamais regardé le foot. Et c'est un bon souvenir, quoi. C'est... Voilà.
Non, mais
ce qui est étonnant, c'est que les supporters britanniques, eux, ils vous ont presque sorti du pub quand même, Kinou, si j'ai bien compris.
Ah ben oui, même quand il y avait des équipes anglaises qui jouaient, on n'avait pas le droit d'aller en centre-ville. Nous, on était à Bournemouth, on n'était pas à Londres, on était au sud. Et on n'avait pas le droit d'aller en ville parce que comme il y avait de la castagne, il ne fallait pas qu'on soit dedans.
Ouais, d'accord.
Donc,
d'accord.
On avait interdiction d'aller en ville. Mais bon, moi, j'étais chez mon hôtesse, on était en retrait et tout. Donc, on avait trouvé un pub qui avait une télé. Voilà. Mais ils étaient pour le Brésil, en finale. Et bon, comme ils avaient un petit peu la bière chaude là-bas... Oui, on n'a pas...
Bon, ça ne vous a pas empêché de festoyer comme il fallait, en toute tranquillité. Merci, Kinou. Merci pour ce joli témoignage.
Merci pour ces souvenirs, Kinou, Sylvaine et Henri. On vous salue, évidemment. Merci de votre fidélité. On parlait justement de ce 12 juillet 98, parce que nous sommes le 12 juin 2018, presque 20 ans après, jour pour jour, et qu'on joue ce soir un match, donc, séquence nostalgie, entre ces Bleus 98, avec Lizarazu, avec Zidane, avec Desailly, avec Thuram, ce soir, donc, à Nanterre, face à une formation version FIFA 98 composée d'anciens joueurs. Je vous propose de retrouver le club RTL Mondial 2018 à partir de 20h et vous serez tenu bien sûr informé. 32-10, on prolonge tous à 13h40. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Revière.
Stéphane Carpentier.
Et vous voulez rendre aussi hommage à la reine des balmusettes, la passionnariat de l'accordéon, Yvette Horner, qui nous a quittés hier à l'âge de 95 ans. Il y a pas mal de commentaires sur notre page Facebook, Laurent.
Oui, une icône de l'accordéon français nous a quittés, écrit Anne. Quel artiste peut se vanter d'un tel succès, rajoute Petit Fab. Vous avez, madame, fait danser la France entière. Respect à vous, nous dit Vasco. Hommage aussi de Lydia. Merci pour votre joie de vivre et votre bonne humeur. Que de bons souvenirs d'enfance. Votre musique fait partie du patrimoine de notre douce et belle France. Rémi ne se présente pas comme un fan d'accordéon, mais elle restera dans nos mémoires comme une femme admirable, un destin unique.
Et nous avons Dominique qui veut lui rendre hommage au téléphone depuis Toulouse, la Ville Rose. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous les deux et merci pour elle et pour moi, surtout pour moi, parce que ce matin j'ai eu un gros chagrin d'enfant avec des sanglots là comme ça sous la couette, parce que en fait je l'ai plus, hein, parce qu'en fait c'était mon doudou à roulette, hein, c'était mon doudou. Elle, quand je suis née, elle était déjà mondialement connue en 48. Mmh. Donc après je la voyais passer tous les ans devant le 17 quai Sainte-Croix à Bordeaux. Je cavalais, je descendais les escaliers de la grande maison des quais à toute allure, alors que c'était très dangereux pour la voir passer, pas toujours. Je mettais sur une chaise et bon, ma dernière image, elle est toute intacte, hein. C'est une espèce de fourgon comme il y en avait des Renault, je crois, qui ressemblait, qui avait un museau carré, qui était un peu métallique gris clair. Elle était derrière, c'était creusé. Elle nous salue. Elle était assise. Elle était fabuleuse. C'était un doudou à roulette. Puis après, j'ai tout fait pour la retrouver. Bon, j'ai eu l'opportunité de la retrouver. Elle sortait d'avoir animé un bal de 14 juillet à Colomiers. Et je l'ai vue arriver sortir d'une limousine américaine qui faisait 6 mètres de long. Elle est d'abord précédée d'une espèce de cow-boy mutique, un de ses chéris, parce qu'elle avait été quand même, elle avait été très amoureuse d'un coureur qui était mort, je crois, de maladie très prématurément. Elle était très pudique, hein. Elle était très très pudique, Yvette. Mmh. Hein.
Mais Dominique, vous avez réussi à lui adresser la parole? Vous avez parlé avec elle?
Mais évidemment. Oui. Et non seulement je suis devenue son amie de Toulouse.
Ah,
bon,
génial.
J'avais un petit peu la possibilité de la voir professionnellement, mais si vous voulez, et c'est une femme extraordinaire, extraordinaire. Je veux rendre hommage aux Pyrénéennes à travers elle. Elle est d'ailleurs, je pensais en vous attendant, mais c'est une fée à roulette. C'était ma fée à roulette, mais ma fée au sens pyrénéen du sens. C'est-à-dire, ces petites dames, il faut faire attention quand on fait de la randonnée dans les Pyrénées. On croise des petites dames charmantes, très élégantes ou très charmantes, qui sont en fait des fées. C'est la tradition pyrénéenne. Il faut être très aimable avec elle et très poli, hein, parce qu'on peut avoir des soucis après. Et donc, je pense que dans sa généalogie, elle avait comme ça une aïeule ou un aïeux qui avait dû se faire, embrasser par une fée. Enfin, bref, c'est une femme remarquable.
Une femme extraordinaire, en tous les cas. Dominique, on est pris par le temps, je suis navré en tous les cas, mais on a bien mesuré via vos mots et vos propos qu'elle a marqué votre existence en tous les cas et vous avez voulu lui rendre hommage sur RTL. On vous salue, on vous souhaite une belle journée en Haute-Garonne. Merci de vos appels pour commenter l'actualité au 32-10. Pareil demain, 12h30, 14h. Dans un instant, Christelle.
Laurent Gérin.
Vous écoutez RTL.